Peur nous donne l'exemple. C'est vrai, hein? Pas toujours les gars, hein? C'est aussi les sœurs. Nous allons ce matin étudier 5 personnages bibliques. Il est 11h05. C'est vrai que nous parlons beaucoup d'hommes de foi, mais il y a aussi des femmes de foi. Alors ce sont 5 femmes qui ont demandé quelque chose à Dieu. Je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un. Hein? Anne, oui. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Allez, on va préciser. 5 femmes qui sont nées dans le désert. Ça réduit beaucoup. 5 femmes qui sont célibataires dans ce passage. Ça réduit encore beaucoup. 5 femmes d'un même père, dont le nom est Tselopha. C'est le nom du père. Ça vous dit quelque chose? Sur la boîte aux lettres, c'est marqué Monsieur et Madame Tselopha, je sais pas. Certainement, vous connaissez l'histoire. Et leur nom est, enfin, leur nom sont Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirza. Alors, il y a un moyen très simple, mémotechnique pour les retenir. Vous savez lequel? Celui d'avoir 5 filles et de leur donner ses prénoms, hein. Parce que franchement, à la sortie, si vous arrivez à me sortir les 5 prénoms, eh ben, chapeau, hein. Alors, c'est pas des selfies qu'on a retrouvées en archéologie, hein. Ce sont, voilà, des images, donc, sur Internet, sur les femmes. Et leur histoire se trouve dans le livre des Nombres. Alors, un peu après ce que Morgan nous a apporté ce matin. Merci pour ce que tu nous as apporté, Morgan. On fait un peu la suite, là, mais on va se focaliser sur les femmes. Alors, selon les chercheurs, l'Ancien Testament comporterait 1426 noms de personnes. 1426. Et sur ces 1426, combien y a-t-il de femmes qui sont citées? Pas beaucoup, hein? 653. Hey, tu es très loin. 111. Oui, Cédric, t'allais dire une centaine, c'est ça? Oui, c'est 111 seulement. Alors, leur histoire, on va la lire, juste ce passage. Et voilà ce que nous lisons. Alors, s'approchèrent les filles de Tselophad, des clans de Manassé, fils de Joseph. Et voici leur nom. Mala, Noah, Ogla, Milka, Tirza. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre. Et elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, comme la troupe de Corée, mais il est mort pour son propre péché. Et il n'avait pas de fils. » Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan parce qu'il n'avait pas de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux Israélites en ces termes. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et s'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent de son clan. C'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Voilà, donc, ces 5 femmes. Alors, elles sont citées ici, mais ce qui est remarquable, c'est qu'elles seront citées encore dans quatre passages. Nombre 27, Nombre 36, Josué 17, et elles seront nommées dans 1 Chronique 7. Alors, le contexte. Vous savez, le contexte, c'est celui du peuple d'Israël qui est juste devant la terre promise. Et on peut imaginer que dans quelques jours, certains vont prendre possession déjà de ce que Dieu leur a promis. Et on peut imaginer que sous chacune de ces tentes, on parle et on rêve du champ que nous aurons, de la maison que Dieu aura pour nous. On a peut-être, on se projettera aussi de cet héritage. Et ce matin, Morgan nous a lu un texte où il est parlé de cités que les Israélites n'ont pas bâties et que Dieu a en réserve pour eux, des vignes qu'ils n'ont pas plantées et des citernes qu'ils n'ont pas creusées. Dans chacune de ces tentes, l'enthousiasme règne. Ils ont attendu 40 ans avant de pouvoir traverser le fleuve du Jourdain et d'acquérir le pays promis. Mais voilà que tout le monde ne rêve pas. Il y a sous certaines tentes des familles où il n'y a que des filles. Ça arrive, hein. Moi, je suis spécialisé en filles, hein, comme d'autres aussi, hein. Ça arrive. Merci Seigneur. Mais la question qu'elles peuvent se poser, c'est Moïse et Dieu nous ont parlé des hommes. Mais nous, les femmes, est-ce que nous avons une part là-dedans? Que devient l'héritage promis à notre père? Que vont-elles devenir, ces filles, dans ce pays de lait et de miel, si elles ne peuvent rien obtenir? Et on se questionne. Et c'est une inquiétude qui est tout à fait légitime. Alors, avec courage, elles vont affronter Moïse, mais non seulement Moïse, le sacrificateur, les princes et tout le peuple. Et voilà ces 5 sœurs qui vont arriver avec audace et foi, et elles vont s'adresser à Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Alors Moïse, il n'a pas su répondre. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, il n'a pas dit « Ah les filles, oui, j'ai oublié de vous dire hein ». Il ne s'est pas aventuré à dire des bêtises. Vous savez, parfois, nous on veut trouver une réponse et au lieu de dire « Je réfléchis et je prie », une parole sort de notre bouche et voilà qu'une bêtise a été prononcée. Alors, au lieu d'improviser, Moïse va présenter leur cause devant l'Éternel. Et nous avons là, mes frères et sœurs, un modèle, mais véritablement un modèle, de 5 femmes, de 5 sœurs, et chacune d'elles va nous exprimer ce matin comment nous pouvons nous approcher de Dieu. Alors la première d'entre elles, c'est Mala, l'aînée, celle qui est citée en premier. Son nom veut dire maladie, faiblesse. Peut-être qu'elle est née chétive, fragile. Et vous savez, c'est compliqué quand on a un enfant qui montre des signes de faiblesse. Et surtout dans un contexte de désert, ça devient encore plus compliqué. C'est donc démunie et visiblement faible que cette femme doit affronter la vie. Et pour nous, quand nous nous approchons de Dieu, eh bien, c'est aussi un exemple. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est souvent démuni et faible que nous devons le faire. Son nom veut dire, la racine verbale de son nom veut dire aussi implorer. Implorer, quand nous n'avons plus de solution humaine, nous venons devant Dieu et nous l'implorons, n'est-ce pas? Quand nous n'avons plus de force pour lutter. Peut-être que nous nous trouvons un peu déphasés. Seigneur, il y a tant qui savent bien prier, tant qui savent bien intercéder. Et moi, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, si ce n'est peut-être mes faibles mots, mes incapacités ou mes manquements. Jésus a dit quelque chose d'absolument merveilleux. Il a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui ont besoin de médecins, pour ceux qui sont malades. Alors, voilà une femme qui s'approche de Dieu avec toute sa faiblesse. Et au lieu de se rabattre sur ses propres difficultés, eh bien, elle va adresser cette cause à Dieu à travers Moïse. Alors, notre Mala est faible. Vous savez, il y en avait un autre aussi qui se considérait faible. Ou du moins que Dieu a volontairement affaibli. C'est l'apôtre Paul. Paul qui dit, eh bien, qu'il a reconnu ses faiblesses. Mais il y en a un autre aussi. Celui qui a intercédé pour elle. Vous vous rappelez Moïse quand il s'est présenté devant l'Éternel? Devant ce buisson ardent qui ne se consumait pas? Dieu lui a dit, Moïse, voilà ce que tu vas faire. Qu'a fait Moïse? Eh bien, il a fait état de ses faiblesses. Seigneur, moi, je ne sais pas parler. Les autres peuvent parler, mais moi, pas. Et puis Dieu l'a dit, non, mais cela ne va pas m'arrêter. Et puis Moïse a dit, mais écoute, en plus, je n'ai pas une bonne cote auprès des Israélites, parce qu'ils se rappellent ce que j'ai fait. Et ils vont me traiter d'assassin et ils vont me faire des reproches. Dieu a finalement dit, ça, ce n'est pas grave. Et puis à travers cela, vous savez, il a peut-être endossé le symptôme de l'imposteur. Je ne suis pas à ma place. Un autre le ferait tellement mieux. Et il a proposé un nom. C'est quand même une force de proposition, Moïse. Hein. Il y a Aaron, mon frère. Ah, lui, tu sais, il sait bien parler. Prends-le, envoie quelqu'un d'autre. Mais en réalité, mon frère, ma sœur, c'est justement ce que Dieu veut. Quand tu t'approches de Dieu avec toute ta faiblesse et tes incapacités, c'est exactement là que Dieu veut te mener pour que tu puisses lui adresser tes prières. Parce que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui lui dise ce qu'il faut faire. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui a déjà des solutions et qui va lui demander de bénir ses solutions. Ce que nous avons, c'est besoin d'entrer dans les projets de Dieu. Et nous voyons même le Seigneur intervenir dans nos propres vies. Comme il est dit dans Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre force. Non, de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il vient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà comment Dieu nous veut. Avec notre faiblesse, avec nos incapacités, avec nos incompétences, et même avec cette écharde que peut-être que nous avons dans nos vies. Vous savez, ce point qui nous fait dire à Dieu, « Ah, je pourrais tellement mieux te servir, tellement mieux prier, tellement mieux agir, si seulement tu m'enlevais cela. » Ah, cette fabuleuse, fameuse écharde. Je serais sans doute, Seigneur, tellement plus écouté si tu l'enlevais. Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Hein? Et qu'est-ce qu'il en a conclu? Il en a conclu cette affirmation absolument fabuleuse. S'il faut se glorifier, dit l'apôtre Paul, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et puis, quelques chapitres d'après, il dit, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La solitude du faible. Si tu te sens faible, surtout ne reste pas seul, parce que cette solitude va devenir ton plus grand ennemi. Alors, la présence des frères et sœurs pour t'aider à prier. Vous savez, comme Mala qui n'est pas restée seule chez elle, mais qui avec ses sœurs s'est présentée devant Dieu, avec ses quatre autres sœurs. Alors ce matin, il y a un message pour toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul aussi et ne t'isole pas. Voilà l'aîné, Mala. Et puis il y a la deuxième, Noah. Ah, celle-là, on la connaît, Noah. Eh oui. Noah, vous savez, c'est notre Marthe à nous. Hein. Celle qui est toujours en mouvement, c'est ce que son nom veut dire. Celle qui court là, qui court ici, qui fait des choses. Celle qui est agitée. Ah, Noah, nous avons tous une Marthe dans la famille. Et il en faut des Marthes. Hein. Il vaut mieux des fois des agités que des mous. Hein. Mais bon. Mais la question, c'est où cours-tu, Noah? Pourquoi t'agites-tu autant? Où cours-tu dans ta vie? Où cours-tu dans tes journées? Quel est le but de ta vie? Cette question, elle n'est pas seulement pour elle. Elle est aussi pour nous. Le matin, quand tu te réveilles, quelles sont tes premières pensées? Peut-être que tu te réveilles avec les soucis de la veille. Ah, tout ce qu'on n'a pas géré, vous savez, ces dossiers à gérer, dont on laisse un peu tranquille pour dormir. Et une fois réveillés, ils nous attendent. Dans ce cas-là, mon frère, ma sœur, dors dans ton bureau. Peut-être que c'est les objectifs du jour. Ah, l'impératif, vous savez, c'est la performance de ce qu'il faut accomplir aujourd'hui. Peut-être que c'est juste le café, la première pensée qui te vient le matin, pour te réveiller. Où cours-tu? Où cours-tu, mon frère, ma sœur? Vous savez, le grand missionnaire Hudson Taylor a écrit un livre qui s'intitule « Le secret spirituel ». Et dans ce livre, il raconte que son plus grand combat, c'était de trouver du temps pour prier. Hudson Taylor, qui était très 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 occupé, parce qu'il avait des orphelinats à gérer, eh bien, a trouvé un secret. Il se levait à 3h30 du matin, il priait et se rendormait un peu après pour se réveiller bonne heure. 3h30 du matin pour passer du temps avec Dieu. Mais peut-être que quand tu essayes de te fixer un rendez-vous avec Dieu, eh bien, tes pensées s'agitent. Il y a tellement de choses qui viennent. Tu as commencé une phrase et t'es parti, je ne sais où. Hein? Peut-être que tu as des sujets vagues et tu vagabondes. Hein? Et puis tu te dis, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir passé du temps là où je n'ai fait que penser à autre chose qu'à Dieu? Alors tu te ressaisis et tu dis, voilà Seigneur, me voici devant toi. Oui, devant toi. Mais devant moi, il y a la pelouse à tondre. Qui va le faire? Cette petite fuite ou cette machine à réparer, dont ma femme me dit depuis déjà 2 semaines, il faudrait que tu t'en occupes. Qui va le faire? Et puis, Seigneur, il y a cette voiture qu'il faut réparer, amener chez le garagiste. Et puis, ces factures. Oh, ces factures, hein. Toujours payées, encore et encore. Voilà. Hein. Et puis, ces personnes qu'on va recevoir à la maison. Et nous voilà tellement préoccupés par notre quotidien que nous devenons des Marthe. Vous savez à qui Jésus a dit? Marthe, Marthe, pourquoi t'agites-tu? Pourquoi t'agites-tu? Et le pire là-dedans, c'est pas tellement Marthe qui s'est ressaisie. Le pire là-dedans, c'est le modèle que nous a laissé un homme, Ésaü, dont il est dit que le jour où Jacob à la maison faisait cuire le potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Ah, il était tellement occupé cet homme, hein. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, des lentilles, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela que l'on a donné donc à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, alors vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, tellement suroccupé, négligeant le temps avec Dieu, me voici sur le point de mourir. À quoi me sert-il ce droit d'aînesse? À quoi me sert-il? Où cours-tu ainsi? Tu sais, il y a un bon conseil qui est celui de ne jamais être pressé quand tu rentres dans la présence de Dieu. Ce n'est même pas la peine de te présenter s'il le faut. Ne sois jamais pressé si tu as pris un temps de prière. Un philosophe a dit, se hâter devant Dieu n'est pas du diable. C'est le diable lui-même. Tu vois, nos pensées, le diable les agite pour que nous ne focalisions plus sur Dieu. Alors tu peux peut-être trouver, pour le plus simple, un moment favorable où tu n'es pas dérangé. Peut-être prier à haute voix. Ça permet d'être plus concentré. Il y en a qui écrivent leurs prières. Cela peut se faire. Il y a tellement de manières de prier pour rester concentré. Tu peux prier aussi avec les psaumes. Tu lis un verset et tu exprimes ta prière devant Dieu. Mais ne sois jamais pressé. Ne te hâte jamais à autre chose quand tu rentres dans la présence de Dieu. Alors nous avons vu Mala avec sa faiblesse, Noah, elle qui se hâte, et puis Ogla. Alors Ogla, je ne sais pas d'où son père a trouvé ce joli prénom. Ce prénom veut dire perdrix. Elle, c'est la perdrix. Hein? C'est pas la perdrix de l'année. Il s'agirait de la perdrix grise, celle qu'on appelle la perdrix de Damas. Et vous savez, les Provençaux la connaissent bien. C'est la Bartavelle, celle dont parle Pagnol. Hein? Le prophète Jérémie, parlant donc de la perdrix, dit ceci dans Jérémie 17, 11. « Comme une perdrix qui couvre ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. » Voilà l'image de la perdrix. Il arrive donc dans certains cas que la perdrix couvre quelques œufs qui ne sont pas les siens. Et en fait, Jérémie dit, ça sert à rien. Donc si tu cours derrière les richesses, cela ne sert à rien. Le commentaire biblique dit que cet oiseau est fort criard, soit en amour, soit en combat. Alors en Chine, il a la réputation d'être très désagréable. Hein? Tandis qu'en Iran et en Inde, la réputation de la perdrix, eh bien, c'est une référence à l'élégance. Là, on a des choses opposées. Et la tradition chrétienne, elle, eh bien, voit à travers la perdrix le symbole de la tentation et de la perdition. Bon, je pense pas qu'il a appelé perdrix en disant qu'elle allait se perdre, n'est-ce pas? Pas du tout. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est l'honnêteté de ces filles lorsqu'elles parlent de leur père. Elles rappellent quelque chose qui existe dans nos vies à chacun, avec lesquels on vient devant Dieu. Qu'est-ce qu'elles disent concernant leur père? Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, c'est la troupe de Corée, mais il est mort pour son propre péché. Voilà ce qu'elles soulignent. Il n'est pas mort d'un crime parce qu'il a commis un crime spécial. Il n'est pas mort parce qu'il a été en révolte ouverte contre Dieu. Il est mort tout simplement par incrédulité. Il y a quelque chose qui peut être un obstacle quand nous prions. C'est notre incrédulité. Quand nous pensons que Dieu ne peut pas répondre à la prière que nous lui adressons. Je ne parle pas aux folies que nous lui adressons, hein, mais aux vraies prières que nous lui adressons. Et Tselophade faisait partie de cette génération qui n'a pas cru Dieu quand il leur a dit « Cette terre est pour vous ». Alors quand nous venons à Dieu, venons avec nos perdrix, nos pensées, nos tentations, notre incrédulité et tout ce qui nous a servi et qui a servi notre âme, qui nous tienne éloignés de Dieu. Venons avec notre désobéissance. Quand nous nous approchons de Dieu, mon frère, ma sœur, quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu es juste là pour lui présenter tes besoins? Comme un Dieu qui serait un génie où tu as qu'à frotter la Bible afin qu'il sorte et qu'il te dise « Ah, qu'est-ce que tu désires aujourd'hui? Allez, donne-moi 3 vœux. » Et bien sûr, on est intelligent, on va dire « Le premier vœu, c'est d'avoir 10 vœux en plus. Tant qu'à faire, hein ?» Dieu n'est pas ainsi. Nous avons besoin de rentrer en introspection. Nous avons besoin de trouver en Dieu les révoltes que nous avons, le manque de foi, notre désobéissance. Nous avons besoin de son pardon afin de prier avec des mains pures. Nous avons un bon exemple dans la parole de Dieu. C'est celui de Pierre. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, Pierre se souvint, voilà, il rentre en introspection, hein. Il se souvient, il se rappelle. C'est ce que nous a dit Morgan, nous avons besoin de nous rappeler pourquoi Dieu a fait les choses. Mais lui, il s'est rappelé. Et alors Pierre, de ce que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Alors Pierre sortit en dehors et il pleura amèrement. L'introspection. Alors là, je voudrais souligner un point important. Pour celle et celui qui est sauvé. Tout à l'heure, on a entendu dans une prière, Dieu est le Dieu de tous, mais il est le Dieu et le Père particulier de ses enfants. Toi qui es un enfant de Dieu, Dieu n'est pas là pour t'accuser. Ce n'est pas son rôle. Le rôle de Dieu, c'est de te conduire. On peut se sentir coupable sans l'être. Il peut y avoir de fausses culpabilités qui envahissent notre cœur quand nous sommes devant Dieu. Comment savoir si c'est une vraie culpabilité ou une fausse culpabilité? Alors il y a un petit test. Si tu penses, si tu passes tout ton temps à demander dans ta prière à Dieu de te pardonner les mêmes choses, c'est qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, il te faudra demander de l'aide. Tu es peut-être dans une période où spirituellement tu n'es pas en forme, mais tu n'es pas dans une période où Dieu t'a rejeté. Si tu continues à rester dans cette période sans demander de l'aide, il se peut que tu puisses spirituellement avoir des difficultés encore plus importantes par la suite. Les accusations répétitives produisent une fausse culpabilité. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit qui est en toi. Que dit Jean dans son épître? Il dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » La confession, Dieu est là pour nous les pardonner. Selon les péchés, il peut y avoir aussi besoin de les avouer à quelqu'un et aussi de les réparer. Mais ne vis pas avec cet éternel ressassement qui vient constamment sur les mêmes choses. Ce n'est pas ce que nous apprend Ogla. Elle est venue avec ses sœurs pour une requête qu'elle n'a pas ressassée sans cesse. Et Moïse l'a entendue et l'a portée devant l'Éternel. Alors voici la quatrième sœur. La quatrième sœur qui s'appelle Milka. Vous avez déjà retenu les trois autres? Oui, bien sûr. Hein? Mala, Noah, Ogla, Milka. Ok? Donc cette quatrième sœur, son nom veut dire la reine. Ah, ça, ça fait plaisir. Ah, eh oui. Une reine, pourquoi? Si j'arrive à trouver mes notes, je vais vous le dire. Parce que c'est son nom. Hein? Alors, la reine, c'est... Être reine, c'est un privilège, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une reine? Une reine, c'est l'épouse d'un roi. Celle qui règne. Notre privilège, dans la prière, c'est d'être dans cette proximité du trône de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, même si nous sommes assis ici ce matin. Mais notre identité, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir être en tête à tête avec lui. Nous n'avons plus besoin de médiateur, comme dans l'Ancien Testament. Que nous dit Hébreux chapitre 4 ? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. La prière ne devient pas une contrainte parce que nous devons prier. La prière devient un privilège parce que nous pouvons nous approcher en tant que roi et reine devant celui qui règne. Voilà ce que nous apprend Milka. Ce n'est pas un devoir à rendre à Dieu où je dois prier matin, midi, soir, afin que Dieu soit content. Nous ne sommes plus esclaves, dit la parole de Dieu. C'est pourquoi Moïse a fait sortir le peuple d'Israël et lui a rappelé qu'il n'était plus esclave, mais qu'il était un peuple libre. Galates nous dit ceci, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier grâce à Dieu. » En tant que reine, en tant que roi, en tant que fils de Dieu, nous sommes héritiers. Que dit la Bible sur nous? Vous arrivez à lire De là où vous êtes, ce qui est marqué sur la croix, qu'est-ce que vous lisez? En Christ, je suis, j'entends pas, aimé, béni, justifié, pardonné, sanctifié, libéré, vous avez de bons yeux, c'est super. Comblé, oui. Nous sommes tout cela en Christ. Le diable ne peut pas te le voler, mais il peut te faire énormément douter sur ce point. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois te revêtir de cette identité qui est la tienne. Non pas que nous avons inventé, mais que Dieu a produit en nous sauvant, en nous adoptant, en faisant de nous ses fils et ses filles. La génération du réveil des siècles passés, comme celle du XXe siècle, était une génération qui n'était pas troublée avec son identité. Aujourd'hui, on est tellement dans la confusion identitaire que même spirituellement, nous sommes impactés par cela. Nous ne savons plus en tant que chrétiens qui nous sommes devant Dieu. Et ce qui a poussé cette génération qui avait sens de son identité, c'est la prière. C'était des femmes, des hommes qui priaient quand ils se rassemblaient. Ils priaient quand ils se retrouvaient. Ils priaient quand ils se rendaient visites. Ils priaient quand ils recevaient. Parfois on reçoit du monde et on n'ose pas prier. On est chez nous, à table, pour remercier le Seigneur, pour ne pas choquer nos invités. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Tout ce que nous avons, nous le lui devons. Il y a des chrétiens qui ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, qui elles sont réellement. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils ne savent pas prier, parce qu'ils ne savent pas ce que la prière peut déclencher. De grâce, ne laissons pas nos réunions de prière ou nos temps de prière être volés par quoi que ce soit. Ne manquons pas nos occasions de prier. Morgane, ce matin, a demandé s'il y avait un témoignage. Ben, j'avais un témoignage, mais je n'avais pas, peut-être peux-tu le donner. Non, j'avais Élie, tais-toi, tu as tout à l'heure parlé aussi, ça fait trop. Cette semaine, j'ai pu prier avec quelqu'un qui était à deux doigts de se convertir à l'islam. Notre voiture est tombée en panne la semaine dernière. Évidemment, on est content hein, quand tu as des frais supplémentaires. Hein, à Donzère, nous saluons nos amis de Donzère. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir. Un taxi payé par l'assurance nous récupère, un homme très fermé à l'évangile. Et puis pour récupérer la voiture, un autre taxi vient me récupérer. Et puis un homme occupé, très occupé. Et puis, on est là, on discute, on discute de Dieu. Vous êtes croyant? Et il me dit, oui, mais, voilà. Après lui avoir annoncé l'évangile pendant trois quarts d'heure, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Il m'a dit, oui, priez pour moi. Et j'ai entendu un amen tellement fort. Voilà, tu fais ça tout à l'heure. Ne manquons pas nos occasions de prière. Ne laissons pas nos privilèges spirituels s'éteindre. Tu sais pourquoi? Si nous nous taisons, si nous ne témoignons plus, si nous ne prions plus pour ceux qui sont perdus, alors notre vie spirituelle, tant personnelle que communautaire qu'église, n'est qu'une question de semaines ou de mois. La vie spirituelle va finir par s'éteindre. Voilà ce que nous apprend Milka. Et puis, nous allons finir avec Tirza. Alors elle, c'est son nom, finit bien ce temps de prière. Son nom, c'est la grâce favorable. La grâce, on la chante. La grâce, on la lit. La grâce, on se la rappelle. Mon frère, ma sœur, oui, tout, absolument tout est grâce. Ta vie, tes vêtements, ta santé, le toit que tu as au-dessus de la tête, l'eau que tu bois, la nourriture, nos frères et sœurs, absolument tout est grâce. D'ailleurs, quel enfant Mérite-t-il de naître dans telle ou telle famille? Dis-moi, est-ce que tu as rempli un CV ou une lettre de motivation pour naître dans ta famille? Moi, pas. On tombe dans une famille qu'on n'a pas choisie. Une famille, peut-être que on a apprécié ou peut-être pas. En tout cas, la famille de Dieu, avoir Dieu pour père, nous ne l'avons tout simplement pas mérité. Mais tout est grâce. Ces cinq sœurs le savaient. Et c'est pour cela qu'elles viennent faire cette démarche. Et vous avez noté, cette démarche n'est pas une révolte. Elle n'est pas une, vous savez, une, comme les politiques savent si bien faire, hein, une accusation, un reproche à Dieu. Ah, tu as été injuste avec nous. Regarde ce que tu as fait pendant toutes ces années. Tu n'as rien fait pour nous. Cette démarche n'était pas là pour une question matérielle ou d'héritage. Cette démarche était un rappel de la grâce de Dieu. Seigneur, tu as fait une promesse à notre Père. Nous te demandons de l'accomplir. Oui, avec Dieu, tout est grâce. Privilège immérité, privilège éternel. Dieu tient toujours ses promesses. Et c'est dans sa grâce qu'il le fait. Et vous savez ce qu'il fait dans sa grâce? Il répond même au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons espérer. L'apôtre Paul dit, or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, à lui la gloire. Dieu a répondu au-delà de cette requête. Vous savez ce qu'il a fait? Il a permis que toutes les générations après, donc qui suivent, c'est au temps de qui est le leur et après, eh bien, aient pu bénéficier de cette loi. Dans leur demande, il n'y avait aucune indication contraire dans les préceptes de Moïse qu'il avait transmise. Mais il y avait ce manque, cet oubli de Dieu. Dieu aurait-il oublié nos sœurs? Eh bien, je ne le pense pas. Dieu a voulu nous laisser une leçon et un exemple. Mes frères, soyons à l'écoute de nos sœurs. Elles ont parfois tellement de choses sages à nous dire. Hein? Ça fait plaisir aux sœurs, ça. Hein? Je peux le comprendre. Et c'est tout à fait juste. Que dira Ésaïe? Ésaïe dit ceci. Pour rappeler, le nom de Tirsa veut aussi dire favorable. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Au temps favorable, je t'ai répondu. Et au jour du salut, je t'ai secouru, je te protège, j'établis, pour faire alliance avec un peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Voilà qu'avec la grâce, ces femmes se sont approchées du Seigneur, avec courage aussi. Elles sont pour nous un exemple, chacune avec son offrande, chacune avec son caractère. Et à partir de ce soir-là, il n'y a eu plus aucune tante qui ne pouvait pas rêver à l'héritage attendu. Soyez bénis, mes sœurs. Amen.